Les podcasts du Collège de France, biologie.
Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, il y en a beaucoup qui auraient été découragés. Je les comprends d'ailleurs. Je vais vous faire un petit rappel de ce dont on a parlé. Donc, à la limite, on peut rester comme ça, vous voyez bien comme ça, parce que pour moi, ce sera plus simple pour passer directement à l'écritoire. Donc, c'est la question cette fameuse question des morphogènes. Donc, on avait démarré avec, vous avez vu cette image déjà, on avait démarré avec cette histoire de gradient de bicoïde, qui est une molécule, mais ce n'est pas n'importe quelle molécule, et j'y reviendrai aujourd'hui un moment, parce que c'est quand même un facteur de transcription. Et la facteur de transcription, ce n'est pas censé être une molécule qui fait du signal, c'est une molécule qui est censée régler dans le noyau l'expression des programmes morphogénétiques. Ce n'est pas censé être une molécule qui elle-même se promène pour dire ben là il faut faire la tête, et là il faut faire le thorax, et là il faut faire la queue, le TD, hunchback, etc. Le TD à l'avant, puisque c'est le gène de la tête. Et ce n'est pas neutre pour moi, et vous allez comprendre dans le cours aujourd'hui, que je me suis intéressé à un morphogène qui est en même temps un facteur de transcription, parce qu'au fond, c'est le thème de mon laboratoire, sauf que nous ne travaillons pas sur les mouches, et en fait, je n'ai jamais vu une mouche de près. Les bicoïdes m'ont particulièrement intéressé à cause de ça, aussi parce que c'est le premier morphogène qui ait jamais été identifié comme morphogène. C'est-à-dire que quand Nusslein Volart, en 1988, a dit « voilà, bicoïde répond à toutes les qualités d'un morphogène », et après tout, c'est un facteur de transcription, on s'en fiche. Bah, on s'en fiche, mais en même temps, on ne s'en fiche pas. C'est-à-dire que... moi, je ne m'en fiche pas. Donc, ce facteur de transcription qui diffuse de l'avant à l'arrière, donc vous avez votre mouche, et puis vous avez votre facteur de transcription qui est là, qui est synthétisé là, puis il va diffuser selon la forme d'un gradient plus ou moins exponentiel, on ne sait pas, on sait puisque je l'ai montré. Et donc, toujours ce qu'on avait dit, le problème du drapeau français, il y a des seuils qui font que toutes ces cellules ici, elles vont dire, ben, je vois telle concentration, donc je vais faire une tête, et puis là, je vais faire autre chose, puis là, je vais faire encore autre chose. Donc, il faut que j'efface ça quand même, parce que alors, sinon, on est coincé. Bon. Je suis pas encore très à l'aise avec cette histoire. Donc, quand on regarde un tout petit peu le gradient et qu'on le mesure dans les noyaux qui, là, sont, comme vous pouvez le voir, à la périphérie de l'embryon, ça, c'est un syncytium, monsieur. C'est un syncytium parce qu'en fait, il y a plein de noyaux, il n'y a pas de membrane entre les noyaux. C'est comme un muscle. Dans un muscle, vous avez plusieurs cellules qui ont fusionné et qui ont perdu leur membrane, donc tous les noyaux baignent, entre guillemets, dans le même cytoplasme. Là, ce n'est pas parce que les cellules ont fusionné, c'est parce qu'en fait, les noyaux sont divisés dans une très très grande cellule qui est tout l'œuf. Donc, tous ces noyaux qui sont disposés le long de l'axe antéro-postérieur de mon embryon de mouche ne sont pas séparés entre eux avant la 14e division nucléaire par des membranes. On ne voit pas de membrane. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas quelque chose autour du noyau qui tienne lieu de cellules, entre guillemets, parce que ce n'est pas uniquement ce qu'on voit qui est important. Par exemple, ce n'est pas un sac, si vous voulez, dans lequel baignent des noyaux. Non, c'est organisé. On peut très bien penser qu'il y a quand même une structure qui tient lieu de membrane, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas homogène, qu'on ne passe pas si facilement d'un noyau à l'autre, par exemple. Donc, quand ils ont mesuré le gradient, voilà, vous avez ce gradient, là, c'est le logarithmique, donc vous voyez que c'est droit, donc c'est un gradient exponentiel, en fonction, évidemment, de l'axe antéro-postérieur de notre mouche. Et la question que j'ai posée la semaine dernière, c'est évidemment celle de la robustesse. Et comme vous le savez, comme on en a parlé, quand on regarde le gradient, là c'est 10 mouches, disons, ou 20 mouches, on a mesuré le gradient de bicoïde, et vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a une grande variabilité qu'on peut voir ici. Et par contre, la synthèse de Hunchback, qui lui est normalement déclenché à un des seuils, celui-là, par exemple, vers 0,4, c'est-à-dire à moitié de la longueur de l'embryon, qui fait quand même 500 microns. C'est gros, 500 microns pour une cellule. Donc, quand vous voyez ici, normalement, on peut se dire, Hunchback, il pourrait démarrer ici, 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 ici ou ici, puisque c'est ici que j'ai le seuil, mon fameux drapeau français ou Louise Wolpert. Bon, il va peut-être falloir brûler le drapeau français, je veux dire le modèle du drapeau français. Donc, Hunchback, lui, il est hop, vous voyez. Donc, en fait, la cible de OTD, la cible de Bicoïd, pourquoi j'ai pas OTD, la cible de Bicoïd, qui est Hunchback, si ça répondait proportionnellement à la concentration, elle devrait aussi être extrêmement vague. Or, en fait, c'est très précis. C'est ce qu'on appelle la robustesse. C'est-à-dire que même si j'ai une variation très forte de mon morphogène, ma réponse, elle peut être extrêmement sharp. Ça veut dire que je peux autoriser de la variabilité dans mon gradient, parce que ma réponse, elle va quand même me faire un embryon qui va avoir la tête là où il faut, c'est-à-dire la tête d'une bonne taille. Donc, quand Liebler et Wischaus, et lui, j'arrive jamais à retenir son nom, c'est trop compliqué, ont fait ça, ils ont dit, ah, c'est formidable, il y a un truc pour faire de la robustesse. Donc là, je vais rapidement, parce que c'est quand même, je vous rappelle les étapes précédentes. Hein. Et évidemment, ce qu'ils ont fait, c'est au cours des divisions cellulaires, hein, là c'est 9, je crois que c'est 10, 11, 12, 13 et 14, vous voyez que le cycle cellulaire s'allonge, il faut de plus en plus de temps pour faire un nouveau noyau. Vous voyez qu'ici, on a une dégradation nucléaire, du moins une diminution de la concentration de protéines dans le noyau, dans cette période, toujours dans le temps. Et vous voyez que chaque fois que je divise, je perds mon marquage. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je n'ai rien du tout. C'est-à-dire que je suis dans le noyau, je suis bicoïde, je suis donc un facteur transcription. Hein. J'ai aussi un facteur qui régule la traduction. Et ça aussi, c'est un point important. Donc la traduction, ça veut dire le passage du messager à la protéine. C'est DNA, messager, protéine. De nouveau, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui sont trop obscures. Vous voyez qu'à chaque coup, je perds tout et je re-remplis quasiment au même niveau. Hein, ce qui est indiqué ici, en fait, au fur et à mesure, à chaque fois, je récupère la même quantité. Donc ça, ça veut dire que le noyau sait à peu près combien il doit récupérer. C'est donc un point important. Hein, vous voyez de nouveau ici ce qui se passe. Là, c'est dans une cellule, un noyau. Je perds ma membrane nucléaire, donc je perds mon morphogène, je refais une membrane, le morphogène est importé immédiatement dans le noyau, j'en perds pendant un certain temps, pendant que mon noyau est encore présent, et puis je repère mon noyau. Et quand je perds mon noyau, et j'ai une petite bosse dans le cytoplasme, hein, c'est normal, je récupère de la protéine. Il faut bien qu'elle aille quelque part, la protéine. Elle n'est pas entièrement dégradée. Ce qui est particulièrement intéressant quand je suis ici, c'est que si ici je supprime, je photobleach, c'est-à-dire je détruis la protéine dans le noyau ici, tac, hein, je récupère très rapidement ma protéine dans le noyau au niveau qui est le niveau normal. C'est-à-dire qu'en fait, le noyau sait en fonction du temps combien il doit récupérer de protéines. Ce qui, évidemment, n'est pas évident. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La plupart des trucs, on ne les comprend pas. Donc ça c'est assez rassurant pour ceux qui ne savent pas grand-chose. Donc, l'autre c'est toujours autant que ceux qui n'en savent pas davantage. La question qui a été posée par les observateurs, c'est, vous avez vu, il faut que le gradient parte de l'avant et puis qu'il s'établisse très rapidement jusqu'à 500 microns. Donc on pourrait dire, je fais ma protéine, ça doit s'établir, et donc ça me permettrait normalement de calculer une diffusion. Et on peut calculer la diffusion dans une mouche, parce que comme nos protéines sont fluorescentes, parce qu'on les a liées à une protéine fluorescente, donc j'ai bicoïde accroché à une GFP, qui est une protéine fluorescente. Donc si je bousille ma protéine, parce que je la casse avec un rayon laser, je peux voir dans le morceau qui est devenu noir, parce que j'ai perdu ma fluorescence, revenir le vert, vous allez voir tout à l'heure. Donc je peux mesurer ma constante de diffusion. Si j'admets que c'est de la diffusion, pour l'instant on admet que c'est de la diffusion, moi, je ne crois pas du tout que c'est de la diffusion. C'est là qu'on en est arrivé l'autre jour. Je ne pense pas du tout que ce soit de la diffusion. Mais si vous assimilez ça à une diffusion, vous allez vous rendre compte que votre constante de diffusion, elle est de 0,27 micromètre carré par seconde. Or, ça, c'est très, très bas. Hein. C'est très, très bas. C'est quasiment deux ordres de grandeur trop bas pour expliquer la formation d'un gradient morphogénétique dans l'œuf de mouche. va passer assez rapidement aux choses nouvelles, mais c'est pas mal de faire un petit rappel, parce que, comme je suis sûr que vous n'avez pas travaillé pendant les deux séances, enfin, peut-être que je me trompe. Hein, donc, par contre, pourquoi est-ce que ça ne diffuse pas? On va dire, bon, ça diffuse longtemps, parce que le milieu est très visqueux. Hein, après tout, pourquoi pas? Le cytoplasme, c'est à peu près 4 fois la viscosité de l'eau. Hein, donc, on peut dire que c'est tellement visqueux que ma protéine, avec son rayon de Stokes de je ne sais pas combien, elle ne peut pas diffuser plus vite qu'à 0,3 micromètre carré par seconde. Mais ce n'est pas vrai. Si je prends des molécules de dextrane, qui est un sucre, dont je peux calculer pour chaque molécule le rayon de Stokes, et puis j'injecte le dextrane ici, et puis je photoblitch et je regarde à quelle vitesse il va aller migrer vers les positions de plus en plus postérieures. Donc ça, c'est... Vous voyez, quand j'arrive ici, ça va plus vite, et puis en vert, c'est... Bon, c'est plus loin, en jaune c'est là, en rouge, bon. Donc, sur la base du temps qui est mis pour récupérer mon dextran dans ces différents points, je peux calculer une constante de diffusion, et vous voyez que ces constantes de diffusion sont de l'ordre de 15 micromètres carrés par seconde. C'est-à-dire que c'est à peu près 100 fois la constante de diffusion que j'ai pu calculer avec mon morphogène bicoïde. Et ça, c'est ce que j'ai montré ici l'autre jour. Vous voyez que j'ai ici une constante de diffusion qui est à peu près la même, quelle que soit, et ça c'est l'autre point qui est un point très important, la taille de ma mouche. C'est quelle que soit la taille du dextran, vous allez voir après. Donc en gros, si vous voulez, évidemment si j'ai 10 000 Dalton, ça diffuse un peu plus vite que si j'en ai 150 000, mais... Grosso modo, je veux dire, je suis quand même autour de 20 micromètres carrés par seconde, quoi qu'il arrive. Hein. Et ça nous pose un problème parce qu'il y a des drosophiles de différentes tailles. Hein. C'est comme les humains, ils sont de différentes tailles, mais ils ont toujours la ceinture en gros au même endroit. Hein. Et c'est ce qui se passe avec les mouches. C'est-à-dire que si ma mouche fait 1500 microns ou 500 microns, je vais toujours avoir le même patron d'expression, ça va être proportionnel, c'est-à-dire que hunchback il va toujours arriver à 45% de l'axe antéro-postérieur. Donc, c'est pas évident ça, parce que comment est-ce qu'elle se débrouille les mouches ? Je vais dire, bon, écoutez, c'est normal parce que plus la mouche est grande et plus ça diffuse vite. Ça, c'est un argument, ça serait bien. Donc, je peux aller jusqu'au bout dans le même temps, hein. Donc, maintenant, ce n'est pas vrai, parce que, en fait, si je regarde la diffusion d'un dextran de 40 kilodalton, entre des mouches qui vont faire de 1400 microns à 300 microns, la mélanogaster, elle est là, hein, celle qu'on utilise tout le temps. Vous voyez qu'en fait, les constantes de diffusion ne sont pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, si j'en crois... si j'en crois mon histoire de vecteur scalaire... Hein. C'est très difficile d'utiliser ce truc-là. Hein. Sur cette histoire de racine de D sur K. Hein. Donc, D étant la diffusion et K étant la dégradation. L, c'est la longueur de la mouche. Si j'ai un nombre sans dimension qui peut expliquer pourquoi je fais toujours au même niveau, je mets la ceinture toujours là où il faut. Si la diffusion ne bouge pas, ça veut dire que la dégradation doit augmenter ou diminuer. C'est-à-dire que plus ma mouche est grande, et moins je dégrade. Comme ça, je peux aller plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un facteur dégradation. Donc, vous ne serez pas étonné quand vous allez lire les articles des gens qui pensent au modèle de diffusion, qui vont vous expliquer que c'est la dégradation qui varie. Il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait, ce n'est pas la diffusion. Qu'il n'y a pas de diffusion, qu'il y a un transport facilité. Donc, en fait, que quand ma mouche augmente, eh ben, je vais de plus en plus vite, parce qu'en fait, j'ai un moteur, par exemple, qui me permettrait d'aller plus rapidement vers la queue de la mouche. Donc cette question, non seulement on a un problème avec le drapeau français, vous comprenez bien, parce que le drapeau français, le modèle de Volpert, il fonctionne essentiellement sur un mécanisme fondé sur la diffusion, comme si l'organisme était un billard, et je mets une boule, hein, et ça roule vers le bas. Plutôt, ce n'est pas un billard, c'est de l'agitation thermique, c'est de la marche au hasard, c'est-à-dire que c'est un système dans lequel j'ai une grande concentration et j'ai une diffusion d'ordre thermique, en fait. Et puis, l'autre idée, c'est que, en fait, j'ai une longueur scalaire qui est invariante, hein, et que si j'augmente la taille de mes organismes, alors il faut que j'augmente soit la diffusion ou que je diminue la dégradation. Donc, j'ai en fond trois variables, hein, la longueur, la diffusion, la dégradation, et c'est comme ça que je peux faire, au fond, pratiquement tous mes organismes. Oui. Moi, je... Vous allez voir pourquoi je... C'est peut-être vrai, hein. C'est peut-être vrai. Ça me paraît peu probable, pour des raisons que je viens de vous dire. Là, vous voyez cet exemple, hein, que je vous ai montré encore l'autre jour, où voilà une drosophile, hein, de 500 microns. Voilà une autre drosophile de 1500 microns. Il y a énormément de variations entre les espèces. Mais vous voyez que si vous regardez les bandes, hein, ce que j'ai appelé les ceintures, les drosophiles ont plusieurs ceintures. Donc, le long de l'avant et l'arrière, de l'expression d'un gène qui dépend de l'expression d'un morphogène, vous allez voir que c'est tout à fait proportionnel. Donc, c'est bien fait, quoi. Ma mère me fit petit pour me faire avec soin. Donc, voilà. Et ça, c'est lié essentiellement à cette idée que, fondamentalement, c'est un nombre sans dimension, et donc la dimension ne compte pas. Alors, là, vous avez l'exemple de cette idée, hein. Voilà vos trois mouches qui ont des tailles différentes. Donc là, vous regardez l'intensité, vous pouvez mesurer, vous voyez, il y a trois mouches là, elles ont trois tailles différentes, on les a mises ensemble. Là, vous avez votre gradient de bicoïde qui peut être mesuré soit dans les noyaux, soit à l'intérieur. Et la diffusion est la même. Si vous faites un photobleach à l'intérieur ou à la surface, c'est toujours de l'ordre de 0,3 micromètres carrés par seconde, hein, pour qu'il se passe. Et vous voyez que pour les petites mouches, ça diffuse comme ça. Pour les mouches moyennes, drosophiles ici, qui fait 500 microns, ça diffuse comme ça. Et puis pour les grandes mouches, la Lucilla, ça va jusqu'à 1500 microns. Et si vous rapportez sur une échelle de 1, que vous rectifiez, vous voyez qu'au fond, c'est pareil pour tout le monde. C'est comme s'il n'y avait pas de différence de longueur. Et évidemment, on l'explique par le fait que le rapport entre lambda et L est quelque chose qui n'est pas différent entre les trois espèces. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de la longueur. Mais de nouveau, on s'en fiche de la longueur si, dans cette idée, on est capable de jouer soit sur la diffusion, soit sur la dégradation, hein, ce qui n'est pas évidemment donné d'avance. Alors, pour faire, ça c'est une chose dont je ne vous ai pas parlé l'autre jour parce que en fait on n'avait pas le temps et puis, je me suis dit en réfléchissant pendant la semaine que ce serait pas mal que je vous en parle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une des façons à supposer que Liebler et Vichaus aient eu raison, c'est-à-dire que j'ai un grand flou dans mon expression de bicoïde et que j'ai un truc très précis dans mon expression de hunchback, qui est la cible, hein, au seuil de, dirons, 40% ou 45% de longueur de l'axe antéro-postérieur. Une façon d'expliquer ça, c'est qu'il y a de la coopérativité. C'est-à-dire que si j'ai des interactions entre, s'il me faut, disons, trois molécules de bicoïde et que c'est une interaction coopérative entre les trois molécules, évidemment, même si j'ai quelque chose d'assez large, je vais rétrécir ma fenêtre, hein, au cube. Donc, ce qu'ils ont fait, toujours Vichaus et Grégor et compagnie, c'est un article récent, ils ont essayé de voir quel pouvait être le degré de coopérativité dans un système où je voudrais obtenir un bon fit, si vous voulez, c'est-à-dire une expression très fine de hunchback, malgré une expression relativement vague, si j'ose dire, de bicoïde. Et ici sont des courbes logarithmiques. En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il faudrait qu'il y ait 5 bicoïdes qui interagissent de façon coopérative sur le promoteur de hunchback pour obtenir une courbe qui corresponde à celle qu'on observe quand on la mesure, c'est-à-dire cette finesse, cette extraordinaire précision. La robustesse, c'est quelque chose de très important, ce n'est pas un problème mineur, hein. Parce que vous imaginez que quand vous prenez un œuf, hein, et que vous faites un organisme, que vous avez des milliards d'événements qui se produisent entre l'œuf, hein, c'est-à-dire qu'il y a la prolifération cellulaire, il y a de la mort cellulaire, il y a de la migration, il y a de la différenciation. Mais vous prenez un œuf de poule, c'est toujours une poule qui sort. Et c'est quand même étonnant, malgré tout. C'est vraiment la plus belle manip. Mais ça veut dire que c'est extrêmement robuste, c'est-à-dire que malgré tous les événements aléatoires qui peuvent se produire dans le développement, hein, depuis le début jusqu'à la fin, et encore maintenant, hein, je veux dire chez vous, chez moi, où ça continue à se développer, enfin, faut espérer. Non, mais bon, j'y crois. Donc, c'est pour ça qu'on désapprend. C'est la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que malgré tout, il faut une robustesse très forte, c'est-à-dire que malgré ce bruit au cours du développement, eh bien, on arrive toujours à faire un organisme qui est apparemment normal, en tout cas. Hein. Donc, c'est une vraie question, la question de la robustesse. C'est aussi une question dans un autre sens, c'est-à-dire que s'il y a trop de robustesse, c'est mauvais. C'est-à-dire qu'un organisme trop robuste, c'est une machine. C'est-à-dire que, mais on ne veut pas d'un organisme trop robuste, parce que si on est trop robuste, on n'évolue plus et on ne s'adapte plus. Hein. Donc, il y a un mélange, si vous voulez, entre robustesse et en même temps non-robustesse qui est important. Donc, cette question de la robustesse est une vraie question importante. Donc, eux, ils disent qu'il faut, pour que la courbe expérimentale corresponde les deux courbes correspondent, celle de Hunchback et celle de Bicoïde, il faudrait qu'il y ait 5 molécules de Bicoïde qui interagissent de façon coopérative, bien entendu, au niveau d'un promoteur Hunchback. Alors, il y a 7 sites. Hein, il y a 7 sites, donc on peut dire c'est possible. Donc, il y a 7 sites, il y a la place pour 5. Hein, mais si c'est 7, ça marche pas. Hein. Si c'est 3, ça ne marche pas très bien non plus au niveau du fitage des courbes. Moi, vous avez compris que je suis plutôt parti pour l'explication du groupe de Dostatny, c'est-à-dire que tout ce travail fait par des gens qui sont quand même formidables et qui a été publié dans Nature en 2002, en fait, c'est un artefact de fixation. C'est-à-dire que, tout bêtement, ce qui s'est produit, c'est que là, ici, ils ont pris des molécules qui étaient des molécules fixées, c'est-à-dire qu'ils ont fixé, puis ils ont pris des anticorps. Et c'est comme ça qu'ils ont mesuré leur gradient de Bicoïde. Et dans la courbe de Bicoïde, vous voyez que si vous faites une erreur de 2 dans le marquage, c'est-à-dire une différence de réaction, de pénétration de l'anticorps, de fixation des anticorps d'un facteur 2, ici, vous voyez que vous avez une variation assez importante, hein, de l'endroit où vous allez mettre votre seuil. Il va varier de cette distance-là. Ça, c'est parce qu'en fait, le gradient de Bicoïde est assez shallow, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est faible. Alors que, comme le gradient d'Hunchback est très fort, si vous faites une variation de 2 dans l'intensité pour Hunchback, vous auriez une toute petite variation. Donc, elle explique ça comme ça. Elle dit, finalement, ça, c'est une très bonne explication. Les différents embryons, ils sont fixés avec, à chaque fois indépendamment et l'anticorps ne pénètre pas toujours de la même façon. Donc, il y a une variation au niveau de l'intensité, mais qui n'est pas liée à la distribution, mais simplement la façon dont on détecte la protéine. Et c'est beaucoup plus grave quand je suis dans une zone d'un gradient où je suis effectivement avec une pente faible que quand j'ai une pente forte. Et ça correspondrait, si vous voulez, à la grande variabilité de mes courbes bicoïdes et ça à la petite variabilité de mes courbes Hunchback. Donc, c'est drastique comme explication. C'est violent, d'une certaine façon, surtout quand même on s'adresse à un prix Nobel, donc c'est pas rien. Donc je vais vous montrer maintenant pourquoi on s'est intéressé à ça dans mon laboratoire. Donc je vais faire une petite coupure pour montrer quelques expériences qui ont été faites dans le laboratoire, en particulier par Brigitte Le Saffre, pour expliquer pourquoi ça nous intéresse qu'un facteur de transcription puisse être un morphogène. Je savais qu'elle venait aujourd'hui, donc bon, sinon je n'aurais jamais mis ces diapositives, mais bon, puisqu'elle est là, voilà. Donc, pourquoi ? Parce que normalement, un facteur de transcription, c'est un truc, c'est dans le noyau, ça reste dans le noyau, et ça exécute les informations qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que si je suis un morphogène de bonne famille, je me fixe sur un récepteur, vous allez voir tout à l'heure, on va revenir à la mouche, hein, parce que vous n'avez pas un kit comme ça. On va avoir des mouches jusqu'à la fin de la journée. Et je pense que la semaine prochaine, pendant 15 jours, je ne sais pas encore, mais il y aura peut-être encore un peu de mouches. Oui. Donc, normalement, je suis un morphogène. Je me fixe sur un récepteur de morphogène. Disons qu'ici, je suis DPP, hein, des cas pataplégiques. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je me fixe sur un récepteur qui s'appelle Fixvane. Hein, Et puis, via la phosphorylation d'une molécule qui s'appelle Mother Against DPP, MAD, qui va se lier à COMAD, je vais aller dans le noyau et engager un programme de différenciation en fonction de la concentration de ligands. Donc ça, c'est comme ça qu'on pense que fonctionne normalement un morphogène, à travers un système de récepteurs, de second messager, c'est une phosphorylation de MAD, et puis, évidemment, il se passe toujours quelque chose au noyau. Dans le cas de bicoïde, qui n'est pas, qui est un facteur de transcription chez la mouche, qu'est-ce qui se passe bicoïde? Il n'y a pas de membrane, donc il s'en fiche. Enfin, on pense qu'il n'y a pas de membrane, mais non, il n'y a pas de membrane dans la mouche. Enfin, il y en a quand même, à la 14e division cellulaire, il commence à y avoir des membranes. Hein. Donc, excusez-moi, la 14e division nucléaire, hein, il commence à y avoir des membranes. Donc, il n'y a pas de membrane. Donc là, mon morphogène, c'est bicoïde, qui est un facteur de transcription, qui est une protéine d'un domaine, une homéoprotéine. Il voit pas, il n'y a pas de membrane, donc il s'en fiche, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas de membrane, il va directement dans le noyau, d'à côté, comme vous avez vu. Et puis, il va transcrire ici au TD, dans les régions les plus antérieures, parce que le TD est très sensible, donc est moins sensible qu'un DVAC, donc très, très tôt. Et puis, ensuite, quand on va aller vers le postérieur, il va traduire Hunchback, comme je vous l'ai montré la semaine dernière et comme je viens de vous le rappeler aujourd'hui pour ceux qui n'avaient pas suivi ou qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, ce que nous pensons, c'est que ce n'est pas uniquement vrai quand il n'y a pas de membrane, mais c'est aussi vrai quand il y a des membranes. Vous direz, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible à condition que la protéine soit capable de traverser des membranes. Donc, si vous voulez, s'il y a une chose qu'on a essayé de démontrer depuis 20 ans dans mon labo, c'est que les homoprotéines peuvent traverser des membranes et aller modifier la transcription, mais aussi la traduction, c'est-à-dire le passage messager en protéine dans une autre cellule. Et c'est là aussi que j'attire votre attention sur le fait que bicoïde, ce n'est pas uniquement un facteur de transcription, c'est aussi un facteur qui est capable de réguler la traduction. Et c'est une chose qui n'intervient jamais, jamais, dans aucun des modèles de fabrication du patron par le morphogène bicoïde. Et ça, ça m'étonne parce qu'on ne peut pas oublier que bicoïde, par exemple, régule la traduction de caudale, comme ceux qui sont ici chez vous, qui sont des drosophilistes, le savent forcément. Donc, c'est parce que dans le laboratoire, on s'est rendu compte que ces protéines pouvaient traverser les membranes qu'on s'est dit finalement, le système nerveux est un syncytium pour les homéoprotéines. C'est pour toi. Hein. Ça veut dire, il y a des membranes, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, puisque si la protéine peut traverser, sortir et rentrer, par des mécanismes sur lesquels je ne vais pas vous embêter parce que ce n'est pas le lieu, c'est pas le thème du cours cette année, mais ça veut dire que c'est comme si il n'y avait pas de membrane. Vous direz oui, mais il y a des régulations pour sortir, puis il y en a pour rentrer. Et qu'est-ce qui vous dit que chez bicoïde, pour passer d'un noyau à l'autre, il n'y a pas aussi des régulations, hein? Quand je dis on ne voit pas de membrane, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une structure du cytoplasme dans le syncytium de la mouche. Donc, notre idée on s'est dit, bon, ben, ça, c'est peut-être finalement la même chose que chez bicoïde. C'est pour ça que je me suis intéressé aux mouches, ce n'est pas uniquement pour ma culture générale. Culture générale, c'est pas très très intéressant finalement. Donc voilà l'idée, si vous voulez. Hein. Maintenant ici j'ai un cerveau, un très très jeune cerveau. Hein. C'est un cerveau au moment où il n'y a qu'une seule couche de cellules, ce qu'on appelle un épithélium. Hein. C'est exactement comme chez la drosophile. Donc j'ai un cerveau, et puis au début j'ai l'expression d'une protéine à un domaine, hein, en l'occurrence, ça n'a pas l'importance laquelle. Et elle est exprimée dans un tout petit domaine. Pourquoi? Parce que son expression n'est pas dépendante d'elle-même. C'est-à-dire que j'ai un facteur qui arrive, par exemple un facteur X, hein, qui va activer localement l'expression d'une protéine dans le domaine. Ce n'est pas bicoïde, c'en est une autre. Non, ce n'est pas bicoïde, parce que ça, ce n'est pas une mouche. Mais ça pourrait. En fait, imaginez que c'est une mouche. Hein. Et l'idée que l'on s'en fait, nous, c'est qu'ensuite, et ensuite ce qu'on sait, c'est qu'il y a une activation, ce qu'on appelle homéogénétique, c'est-à-dire que ce premier domaine va s'étendre. Il ne va pas s'étendre à cause du premier facteur, X. Il va s'étendre parce que, c'est un modèle, hein, parce que la protéine va passer d'une cellule à l'autre et activer sa propre transcription. C'est-à-dire qu'elle va, elle va être infectieuse. Hein, c'est comme une prion, en gros. C'est-à-dire que la protéine est infectieuse. Quand elle passe dans la cellule d'à côté, elle active sa propre synthèse et jusqu'au moment où ça s'arrête. Hein, et ça s'arrête. Et l'année prochaine, je vous dirai pourquoi ça s'arrête, si je le sais. Donc, parce qu'on va continuer à travailler un petit peu dans le laboratoire. Mais ça c'est clair que si maintenant j'inactive mon gène, je vais juste avoir la première zone d'expression du locus, que je peux voir avec un gène rapporteur que j'ai mis dans le locus, mais je n'aurai jamais l'extension. Donc l'extension, elle dépend de la présence de la protéine. Donc le modèle qu'on s'y tient, finalement, c'est comme chez la mouche, peut-être. Vous voyez où je veux en venir ? Au fond, ça m'arrangerait vraiment que bicoïde active la transcription de bicoïde de noyau en noyau. Hein, ça, c'est ça qui m'arrangerait. Ce n'est pas le cas. Je vais revenir, ce n'est pas le cas. Mais ce serait l'idéal, c'est-à-dire que bicoïde va dans le premier noyau, il passe dans le deuxième, il active sa propre production, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un système d'amplification. Et c'est une façon d'aller très vite vers la queue. Hein, c'est-à-dire que... Mais ce n'est plus un phénomène de diffusion. Hein, c'est un phénomène d'amplification successive de moi-même. Je me réplique. Ce n'est probablement pas le cas. Encore que j'ai demandé à un drosophiliste, et il m'a dit, depuis la chute du mur de Berlin, on ne peut plus douter de rien. Donc... Mais je vais revenir sur cette question de bicoïde. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu pourquoi je m'intéresse. Et en même temps, ça peut vous donner des idées sur... Alors, avec Brigitte, on s'est dit on va prendre le territoire œil. Pourquoi le territoire œil ? Parce que, d'abord, parce qu'on travaille sur l'œil, c'est une bonne raison. Mais l'autre, c'est que il y a une chose que je déteste, c'est le concept de gène maître. Vous savez, on dit toujours qu'il y a des réseaux génétiques et puis il y a un gène qui est maître. Donc ça veut dire que c'est lui qui va décider. Ça n'existe pas, les gènes maîtres. La génétique, c'est toujours une centaine de gènes qui fonctionnent ensemble, et quand il y en a un qui déborde, il y a les autres qui le ramènent à la raison, c'est-à-dire qu'il y a rarement des variations de plus 5 à 10% dans l'expression d'un gène, parce que ça fonctionne en réseau. Ça, c'est des sortes de régulons multigéniques. Hein, c'est ça. Mais il y a quelques cas où on peut dire qu'il y a des gènes qui sont particulièrement plus maîtres que les autres, ou moins maîtres que les autres. Et PAX6... C'est un cas, c'est une gène à homéoboîte aussi, c'est un gène homéotique de la famille de bicoïdes et de tous ces gènes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant. Et il est maître parce que si je le surexprime dans un endroit bizarre, je vais faire un œil. L'œil, c'est du système nerveux. Hein. L'œil, c'est du cerveau. C'est ça qui est formidable dans l'œil, c'est que c'est du cerveau. Donc, si je prends PAX6, c'est pas moi, c'est Walter Gehring qui l'appelle, et que j'exprime PAX6 au bout d'une antenne, je vais faire un œil au bout de l'antenne. Vous voyez ? Voilà l'œil normal, hein. ça c'est une mouche normale. Mais j'ai surestimé ce gène ici et je fais un œil. Et je peux le faire aussi sur une patte, par exemple. Je peux faire un œil sur une patte. Donc, d'une certaine façon, ça veut dire que PAX6 c'est quand même très dominant. C'est-à-dire que si je surexprime juste ce gène-là dans un endroit, dans un petit amas d'embryons, ça va me faire un œil ectopique. Je ne dis pas qu'il y a tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au cerveau et voir avec les pattes. Sinon, ça vous donnerait des idées de mettre des yeux n'importe où. Et ce serait de mauvaises idées. Mais ça veut dire que si je bloque PAX6, peut-être que je vais, si je bloque le passage de PAX6 entre cellules, en supposant qu'il passe, peut-être que je vais empêcher l'œil de se former. Et c'est ça l'idée qu'on a eue avec Brigitte. Lui, il veut pas. C'est pas grave, hein, on s'en fiche. Voilà ce qu'on a fait, voilà le résultat, hein, en fait. Donc, Brigitte a bloqué le passage de la protéine entre deux cellules au cours du développement. Ça, c'est un poisson zèbre. Hein. C'est un petit poisson qu'on utilise beaucoup chez les biologistes aujourd'hui. Donc, il y a différentes façons de faire. Je ne vais pas vous dire, c'est pas très intéressant. Mais voilà un œil normal. Hein. Voici un animal dans lequel on a bloqué le passage de la protéine. C'est-à-dire qu'on a chopé la protéine entre deux cellules, hein, avec des anticorps qu'on a réussi à faire exprimer là où il fallait. Et vous voyez que quand je bloque le passage... c'est variable. Le cyclope, quand on pique un zébrafiche, les yeux fusionnent souvent, donc ça, c'est oubliez celui-là. Mais vous voyez que là, par exemple, vous avez un œil presque normal d'un côté, vous avez un œil petit de l'autre. Là où vous avez un œil d'un côté, vous n'avez pas d'œil de l'autre. Vous avez deux petits yeux, là, il n'y a pas d'yeux du tout, etc. Donc évidemment, c'est aléatoire un tout petit peu, parce qu'on ne sait jamais combien on met d'anticorps, à quel endroit, ça diffuse mal dans l'œuf. Enfin bon, c'est pas très grave. Là, c'est quand elle a injecté un anticorps au stade de blastula, c'est un stade de développement. On voit que l'anticorps peut diffuser entre les cellules. Donc, quand la protéine sort d'une cellule pour aller dans l'autre, paf, je la bloque. Hein. Et là, de nouveau, voilà, j'ai un œil normal, là, j'ai un œil qui s'est très, très mal développé. La lentille aussi est mal placée, etc. Donc, Voilà, l'idée donc, là je sais pas, mais non, il m'en manque un bout, mais ce n'est pas très grave, c'est dommage parce que c'est une diapo importante. Mais quand on passe de Mac à PC, il se passe des choses comme ça. Mais quand on a fait les patrons d'expression de PAC6, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quand on bloque l'anticorps, avec l'anticorps, on a le début d'expression de PAC6, exactement comme c'est là, mais qu'on n'a pas l'extension de PAC6, c'est pour ça qu'on fait des petits yeux, voire pas d'yeux du tout, parce qu'après ça régresse ou un truc comme ça. Donc PAC6 est un morphogène, vous comprenez bien. C'est-à-dire que c'est un morphogène, et c'est un morphogène, bien que ce soit un facteur de transcription, c'est un morphogène, et donc de ce point de vue, on peut dire qu'il est comme bicoïde, hein, puisque bicoïde est le premier morphogène qui ait jamais été trouvé. Bon, ça, je vous le montrerai, c'est pour les... Un jour, je vous expliquerai comment on fait des bords, quand je le saurai. Alors, évidemment, ça me plairait beaucoup, pour rien vous cacher, que ça se passe comme ça avec bicoïde. Ça m'aurait arrangé. Hein. Mais il y a plein de raisons de penser que ça ne se passe pas comme ça avec bicoïde. La première, c'est que quand je prends un bicoïde muté, j'ai toujours le phénotype du gène maternel. Parce que pour que j'ai une amplification au niveau nucléaire, évidemment, ça voudrait dire que je peux avoir un phénotype, comme on dit, zygotique, c'est-à-dire que dans le noyau où j'ai le gène maternel, après la fécondation, si c'était une amplification au niveau nucléaire de mon gène, je pourrais avoir un phénotype paternel, en tout cas zygotique. Or, dans tous les mutants bicoïdes, c'est toujours un phénotype maternel. On peut dire, ouais, mais si c'est la protéine maternelle qui démarre la synthèse des autres, c'est-à-dire que si le zygotique est sous le contrôle du maternel, parce que c'est la première protéine qui est importante, celle qui vient de l'avant, qui allume le système, comme je viens d'essayer de vous le montrer, alors c'est normal, j'aurai un phénotype maternel. Donc j'ai demandé au drosophiliste en question, qui s'appelle François Schweizgut, qui est quand même un des grands, il m'a dit, il m'a parlé de la chute du mur de Berlin, il m'a proposé de faire une manip, il m'a dit, ben, vous pourriez faire une manip, on prendrait deux drosophiles d'espèces différentes. S'il y en a un d'entre vous qui veut la faire, moi je serais content, parce que sinon je demanderais à quelqu'un d'autre. Mais, et je les croise, mais ils ont des bicoïdes différents parce qu'ils sont d'espèces différentes. Et je peux avoir des sondes qui permettent de reconnaître le bicoïde zygotique du bicoïde maternel, et peut-être que tu vas voir s'allumer le bicoïde zygotique quand tu vas croiser tes deux mouches. Et ça voudrait dire qu'il y a peut-être une amplification au niveau nucléaire, je ne peux pas entièrement l'exclure. On peut aussi imaginer une amplification qui ne passerait pas par une transcription. On peut imaginer une amplification qui passerait par une traduction, c'est-à-dire que ce sont aussi des facteurs qui régulent la traduction. Donc on pourrait imaginer un intermédiaire qui joue un rôle dans une amplification, qui ne serait pas forcément de la protéine ce coup-ci, mais d'un transporteur. Hein, pourquoi pas un truc qui va prendre la protéine et schlac, qui va l'emmener très vite d'un noyau à l'autre. Plus vite que 0,37 micromètre carré par seconde, en tout cas. Sinon, il faut plus que ça pour aller jusqu'au bout. Mais ça non plus, j'y crois pas tellement. Je crois pas tellement, je vais vous dire pourquoi, à cause encore de Nathalie de Statny, parce que, rappelez-vous la manip qu'elle nous a faite la semaine dernière. Elle a pris GAL4, qui est donc un facteur de transcription de levure, hein, qu'elle a fait exprimer sous le contrôle de Nanos, donc le messager est à l'avant, et elle a mis le 3' UTR de bicoïde, c'est-à-dire que le messager est ancré à l'avant. Donc elle a fait tout ce qu'il faut pour que GAL4 soit exprimé exactement comme bicoïde, c'est-à-dire avec son messager là, et diffusant tranquillement d'avant en arrière. Enfin, tranquillement, peut-être pas. Et puis, comme rapporteur, elle a mis un UAS l'AX Z, c'est-à-dire la séquence qui est reconnue par GAL4 et qui est activée quand j'ai GAL4 qui est exprimé. Et elle a vu un système parfait. Or, il n'y a pas de GAL4 dans les noyaux de mouches. D'accord ? Donc, le fait que ça permette de faire des bords parfaits dans un système totalement artificiel, hein, ça suggère quand même fortement que ce n'est pas la solution. Même si ça m'aurait fait, pour rien vous cacher, extrêmement plaisir. Donc, on va quand même peut-être essayer de convaincre un drosophiliste de faire la manie, parce que ce n'est pas parce que ça marche comme ça avec GAL4 que ça réfute entièrement l'idée que ça peut marcher autrement. Enfin, du moment où on a eu l'idée, il faut peut-être essayer quand même. Mais je ne suis pas très optimiste. Alors, il y a une autre solution, qui a été proposée sur le plan théorique, mais pas uniquement théorique, et qui est assez intéressant, qui a été démontrée par, proposée par le groupe de Barkay au Weissmann. Hein. Et ça, ça me demande de quand même de vous expliquer. Chaque fois, c'est compliqué cette histoire. Voilà. Donc, puis si je perds le stylo, c'est encore pire. Voilà. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, hein, c'était de dire, on laisse le gradient s'établir, voilà, et puis ensuite on regarde. Mais ce n'est pas si simple que ça. C'est dynamique l'établissement d'un gradient. C'est-à-dire que, au fond, la réponse à la protéine, elle se fait avant que le gradient ne soit établi. C'est-à-dire que c'est un système dynamique. Il n'y a pas de raison qu'au moment où je suis là, hein, où je n'ai pas encore diffusé, je n'ai pas déjà, dans cette région-là, des gènes qui ont commencé à fonctionner, à répondre à mon gradient. Donc, je ne suis pas à l'équilibre tout de suite. D'autant plus qu'il faut quand même 90 minutes pour aller de l'avant à l'arrière quand je m'appelle bicoïde. Je crois que c'est 90 minutes, je ne suis pas sûr, mais je crois. Hein. Donc, ce qu'a fait le groupe de Barkai, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Si au lieu d'attendre que mon gradient soit formé pour commencer à imaginer ce qui va se passer dans mes noyaux, si je fais des simulations avant. Alors voilà, ici, vous avez bicoïde qui est là. Et bicoïde qui active la transcription de Giant, Hunchback, Krupel et je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, ce n'est pas très important. Parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un. Il n'y a pas que OTD et Hunchback. Il y a plein de gènes dont l'activité est démarré par bicoïde. Il y a aussi une autre chose à laquelle il faut réfléchir, c'est que tous ces gènes, tous ces produits, ils interagissent entre eux. Hein. Et c'est une chose qu'on ne voit jamais dans les modèles, bien entendu. Mais moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup pour d'autres raisons, vous allez voir, c'est que je pense que si on veut faire des bords, il faut que les protéines de chaque côté des bords, elles s'entre-inhibent dans leur activité transcriptionnelle. C'est ce qui se passe là. Vous voyez que, si vous regardez, tous ces gènes qui sont exprimés le long de l'axe antéro-postérieur, qui sont activés par bicoïde, en fait, ils s'inhibent les uns les autres. Et ça évidemment, ça peut avoir un rôle très important dans le sharpening du bord. Hein, parce que si je dépasse, et puis d'un coup, j'ai un autre qui arrive en face et qui me dit, hop, je t'inhibe. Rappelez-vous, Turing, hein, c'est vraiment... Évidemment, ça peut m'amener à faire un bord sharp, parce que j'ai un zozo qui est de l'autre côté, qui m'empêche de m'exprimer, hein, parce qu'il vient inhiber directement sur mon promoteur. Donc ça, déjà, c'est un élément à prendre en compte quand on pense... Parce que qu'est-ce que fait la mouche, là, hein? Elle fait des bords. Hein? Elle fait des bords. Dans le système nerveux aussi, on fait des bords. Hein? On fait des bords entre les différentes modalités sensorielles. Et évidemment, si vous voulez construire un bon cerveau avec le système visuel où il faut, le système auditif où il faut, le système somatosensoriel où il faut faire des bords dans votre neuroépithélium. Et puis il faut être capable de changer les bords au cours de l'évolution, hein, parce qu'évidemment, les singes et nous, on ne met pas les bords au même endroit. Hein. On a plus de cortex cognitif et moins de cortex olfactif, par exemple. Non seulement on a un cerveau plus grand, 2 mètres carrés, au lieu de 400 cm, mais aussi, on n'a pas mis les bords au même endroit. Donc, cette question de mettre des bords, on la retrouve aussi chez la mouche. Hein. Quand je vous montre ça, hein, ça, c'est quoi? Ça, c'est un bord. Hein. On ne vous a pas montré ce qui est là. Parce que là, il y en a un autre gars, justement. Et c'est ça qu'il faut commencer à voir ici, par exemple. Hein. Voilà. Là, entre ces deux-là, j'ai un bord. Et la fermeté du bord peut dépendre aussi de ce qu'il y a de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dans la robustesse du système. L'autre chose, c'est que effectivement, on n'est pas forcément à l'équilibre. Et ce qu'elle a fait, ce groupe de Barkai qui est au Weizmann Institute, là, c'est dans un système tel qu'on mesure. Hein, à l'expression de mon dosage de bicoïde nécessaire pour avoir un bord correct à 45% pour Hunchback. Donc ça, c'est comme ça. Et ça, c'est ce qui se passe si je prédis avec un système à l'équilibre. Ça ne marche pas. Mais si j'ai un système qui n'est pas un système à l'équilibre, comme elle nous le propose ici, vous voyez qu'à ce moment-là, les données ont l'air de mieux fitter. Hein. Et là, ce qu'elle montre, c'est avec la concentration de bicoïdes au point. Il ne faut pas que je me gourre parce que j'ai pris des notes pour pas. Parce que l'autre jour, j'étais un peu vasouillé. Parce que, en fait, c'est très compliqué, hein, faut pas vous croire, c'est compliqué pour vous, c'est aussi très compliqué pour moi. Mais c'est à ça que servent les cours, c'est essentiellement pour les professeurs. C'est connu. Même là, ça ne marche pas forcément. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, effectivement, là c'est, la concentration de bicoïdes. Et là, c'est la sensibilité de Hunchback à la concentration de bicoïdes. Donc, vous voyez que Hunchback, lui, il s'en fiche pas mal. Il reste toujours à ce niveau-là. Et au fond, c'est pas dans un système dynamique, c'est pas tellement important. Quelle est la concentration de bicoïdes n'est pas tellement importante. La diffusion ici, c'est l'erreur qui est liée en fonction de la diffusion. Et vous voyez que plus on a une diffusion faible, et moins on a d'erreurs dans la façon dont on place Hunchback, dans le modèle qu'elle a développé. Donc, d'une certaine façon, en fait, c'est ce qu'on voit ici. D'une certaine façon, un système dynamique où la concentration de bicoïdes varie avec le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'équilibre, permet de mieux rendre compte des données observées, c'est-à-dire qu'on a, une robustesse plus forte que quand on a un système qui est un système à l'équilibre. Donc, moi, je veux bien. De toute façon, tout ça, ça reste extrêmement théorique, hein. Mais vous allez voir que j'ai trouvé ça c'est un article que j'étais sorti cette semaine à la suite du cours de la semaine dernière et là vous voyez ici dans un système qui est à l'équilibre j'ai toujours la même erreur quelle que soit ma position, hein, alors que quand j'ai un système qui n'est pas à l'équilibre, mon erreur va diminuer. Et ça c'est avant le système. Donc en fait, d'une certaine façon, j'aurai moins d'erreurs quand je vais être dans un système qui est en train de s'équilibrer que quand je vais dans un système qui est en équilibre. Donc, ça ne veut pas dire que Mme Barkaï a raison, mais ça veut dire que cette histoire n'est pas encore terminée, parce que fondamentalement, quand les gens veulent travailler sur le système de drapeau français, ils font des simplifications qui sont des simplifications totalement abusives. Et là, ce qu'elle a fait, ça, c'est une vraie manip qu'ils ont fait. Ils ont pris un LACZ, donc bêta-galactosidase, la même manip que notalizostatine, donc avec un gène rapporteur qui fait du bêta-gal. Ils ont mis trois promoteurs de bicoïdes devant, exactement comme elle avait fait. Et ils ont regardé, en fonction du nombre de cycles cellulaires, c'est-à-dire comment ça allait s'équilibrer autour, évidemment, de la position 40%. Et vous voyez qu'ils ont regardé qu'au cycle 11, 12 et 13, mais dès le cycle 12, c'est-à-dire avant qu'on soit vraiment à l'équilibre, dès le cycle 12, je peux commencer à voir que la plupart de mes embryons, à chaque fois c'est un embryon, se tournent dans une position moyenne. Bon, il y a un petit peu de variation, hein, il y a de l'erreur entre 35 et 42, mais ça se resserre, hein, et fondamentalement, mon modèle me permet de penser que très tôt, dans un gradient qui n'est pas fini encore, qui n'est pas établi, eh bien, je peux déjà avoir une position à peu près correcte de mon gène. Et là, c'est avec le temps. Donc, cycle 11, c'est très variable, hein. Normalement, c'est autour de 40% que j'ai mon pic de Hunchback, hein. Ici, de bêta-gal, bien entendu, puisque je n'ai pas Hunchback, mais j'aurais pu mettre 5 bicoïdes, hein. Ça aurait peut-être été mieux, mais dans le MIC 3. Mais vous voyez qu'au départ, c'est très variable. Vers au cycle 12, ça commence à se raffiner. Et au cycle 13, je commence à avoir une courbe qui tourne entre, je dirais, 38 et 42%, ce qui fait une erreur d'environ 4% dans la distribution, ce que ce qu'on trouve chez toutes les mouches à peu près formées. Donc, son modèle colle relativement bien avec ce qu'on peut voir, ce qui ne veut pas dire que son modèle à quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe vraiment. Ça, c'est aussi une chose, c'est-à-dire que ces modèles sont bien, ils sont intéressants, ils permettent de faire des manips, la preuve, hein, mais bien entendu, ils ne veulent pas dire, c'est pas parce que ça colle que c'est vrai pour autant. Donc, je vais en rester là avec les mouches, avec cette histoire pour l'instant, de bicoïdes en tout cas. Et puis, je vais passer maintenant à une... Voilà la conclusion de cette équipe que je trouve assez utile. Hein. En démontrant que... Ils ont déjà une réponse assez propre en travaillant avant qu'on ait un état d'équilibre sur la formation du gradient. Effectivement, ils ont un système assez parcimonieux parce que ça marche uniquement avec trois bicoïdes et un lac Z, c'est-à-dire qu'ils arrivent à reproduire le résultat du groupe de Dostatny. Ils ont une explication assez simple sur la robustesse fondamentalement de l'activité de bicoïdes. Donc, la chose à laquelle ils n'ont pas répondu, hein, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'augmente la taille de la mouche, hein, ce qu'ils appellent le scaling, ce dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que si on augmente la taille de la mouche, il faut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Si on fonctionne sur la taille de la mouche, comme je vous l'ai dit, il faut soit jouer sur la diffusion, soit jouer sur la dégradation. Je ne sais pas dans quelle mesure le modèle de Barkai permet ça. Donc, mais ils ont l'intention de s'y mettre. D'ailleurs, j'ai été la voir l'année dernière chez elle, et effectivement, ils ont l'intention de s'y mettre. Ils s'y mettent. On va voir ce que donne leur modélisation. Donc maintenant, si vous voulez, on va démarrer une deuxième partie qui est sur des morphogènes plus classiques, c'est-à-dire des morphogènes qui ne sont pas des facteurs de transcription. C'est extrêmement rare. Personnellement, je pense que toutes les homoprotéines sont des morphogènes. Je vous le dis carrément, c'est un point de vue. Ce n'est pas un point de vue qui est partagé par l'ensemble de la communauté scientifique, vous en doutez bien. Mais c'est comme ça que je vois je pense que c'est une des fonctions de ces facteurs de transcription, c'est des molécules de signalisation qui, au cours du développement précoce, jouent le rôle de morphogène. Et peut-être même au cours du développement tardif, et pour aller jusqu'au bout, chez l'adulte. Mais on en parlera probablement au cours des leçons de l'année prochaine, des années après, si on va jusqu'au bout. Hein. Donc là, je vais vous parler de morphogènes qui sont des morphogènes beaucoup plus classiques, qui sont donc des molécules qui jouent leur fonction en s'accrochant à un récepteur. Alors là, vous êtes dans un truc avec lequel vous êtes forcément extraordinairement familier. Je me mets sur un récepteur, j'active mon récepteur, j'ai un deuxième messager, je suis au noyau, je transcris, etc. Donc un truc tout à fait cachère. Donc, je vous rappelle quand même un tout petit peu, mais on va rester quand même dans les mouches, hein, pour l'instant en tout cas. On va rester dans les mouches, et on va rester, mais maintenant on va passer quand même une étape, on va passer à l'aile de mouche. Hein, Alors, l'aile de mouche, c'est comme tout dans tous les organes, il y a un avant, il y a un arrière, il y a un dessus, il y a un dessous. Et on va essentiellement s'intéresser à l'avant-arrière, et un tout petit peu au dessus-dessous, mais surtout à l'avant-arrière pour aujourd'hui. Alors, comment c'est fait un disque imaginal, hein. Un disque imaginal, c'est la petite quantité de cellules embryonnaires qui va se développer pour donner l'organe. Ça vient du terme imago. Hein, une imago, c'est l'image de l'espèce. Donc le disque imaginal, c'est le disque qui, quand il va se développer, quand la mouche va apparaître, va donner naissance à l'imago mouche. Hein. C'est par quoi je sais reconnaître une mouche d'un moustique, parce qu'ils n'ont pas le même imago. C'est une définition de l'espèce, de certaine façon. Donc le disque imaginal d'une aile doit toujours donner une aile. Alors, il arrive que le disque imaginal d'une aile donne autre chose. C'est quand le disque imaginal de l'aile s'imagine qu'il est ailleurs. Ou celui de la patte s'imagine qu'il est ailleurs. C'est comme ça qu'on fait des mutants chez la mouche, dit Antenapedia, où vous avez une patte à la place des antennes, parce que le disque imaginal qui normalement doit donner l'antenne va donner une patte. Ou qui doit donner un œil va donner une aile. On appelle ça ophtalmoptera. Mais c'est simplement parce qu'ils lisent mal leur information de position, et donc ils se développent des programmes qui ne correspondent pas à la position à laquelle ils sont. Réellement, ils ont une fantaisie de position. Donc donc un disque imaginal. Et c'est important de comprendre comment c'est foutu, parce que Voilà comment c'est fait. Donc vous avez ici vos cellules, hein, elles sont là, hein, ce sont des cellules épithéliales, hein, et puis elles ont un côté apical qui est là, qui est couvert par le péripodium, hein, les cellules péripodiales. Donc ça, si je vous le dis, parce que ça veut dire une chose qui n'est pas forcément évidente, c'est que si je ne fixe pas mon tissu, je rajoute des anticorps là-dessus pour voir où sont mes molécules, où sont mes morphogènes, par exemple, je n'aurai jamais accès à cet endroit-là, parce que c'est entièrement fermé. Donc quand vous allez lire des articles, ils vous disent, on a regardé la distribution de décaps pentaplégiques, par exemple, sur le tissu vivant, en ajoutant un anticorps anti-décaps pentaplégiques, ben vous pourrez dire, oui, peut-être que vous avez vu quelque chose, mais vous n'avez rien vu de ce qui était là, dans le domaine apical. Ce n'est pas négligeable, parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont sécrétées dans les domaines apicaux, dans les épithéliums. Ensuite, vous avez le domaine basolatéral, qui est ici, et si on fait une coupe dans le domaine basolatéral, vous avez un truc comme ça. Hein. Là, c'est une coupe, maintenant je mets à plat, voilà mes cellules. Hein. Et là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est bourré de trucs. Hein. Il y a des récepteurs, il y a... là aussi, hein. C'est bourré de trucs, il y a de la matrice extracellulaire, il y a toutes sortes de choses. Mais là aussi, donc, quand je déverse une molécule là-dedans, la balade entre mes cellules n'est pas une balade évidente. Hein. C'est essentiellement d'ailleurs une marche stochastique probablement, sauf si j'ai des transporteurs. Hein. De nouveau, comme dans le cas de l'œuf, moi je suis tout à fait favorable à l'idée qu'il puisse y avoir des transporteurs. Alors, ici, c'est, j'en ai parlé un petit peu depuis tout à l'heure, décap pentaplégique. Donc, décap pentaplégique, alors ça, c'est l'arrière de, de l'aile, futur arrière, futur avant de l'aile. Ici, j'ai un gène qui s'appelle NGREL qui est exprimé. À la frontière, j'ai un autre qui s'appelle NJOG qui va entraîner l'expression de décap pentaplégique, qui est une famille de ce qu'on appelle les BMP, les bone morphogenetic protéines. Parce que tout ça est très conservé entre tous les organismes. Hein. Parce que ce que je vous dis là, pour la mouche, ça fonctionne avec quelques modulos ou quelque chose chez tous les animaux. Donc là, vous avez donc DPP, qui est une molécule qui est exprimée dans cette région-là, qui est au bord, dans la région antérieure de l'aile, bien entendu, mais au bord, si vous voulez, antéro-postérieur. Et là, on a un autre qui s'appelle wingless. Oubliez l'expression périphérique, c'était wingless, qui est exprimé ici, au bord de la future région dorso-ventrale. Aujourd'hui, j'ai surtout vous parler de décap pentaplégique, c'est-à-dire de ce qui se passe le long de l'axe antéro-postérieur. Ouais. On a fait l'antéro-postérieur pour l'embryon, on va faire antéro-postérieur pour l'aile pareil.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.